Au cours de près de 2000 ans qui se sont écoulés depuis sa première utilisation, le mot chrétien a revêtu de nombreuses significations. Et ce faisant, il a perdu presque tout son sens, au point que aujourd'hui, beaucoup de ceux qui se disent chrétiens ne seraient pas reconnus comme tels par le fondateur du vrai christianisme lui-même, Jésus-Christ. Qu'en est-il de vous et moi? Lorsque Jésus nous regarde, voit-il quelqu'un qui revendique son nom, mais qui ne le suit pas réellement tel un disciple? Si vous avez le courage de vous poser cette question, d'y répondre dans l'intégrité et l'humilité, cela pourrait changer complètement votre vie. Rejoignez-nous pour cette émission du Monde de demain et réfléchissez à la question suivante: Jésus vous qualifierait-il de chrétien? Nous vous souhaitons tous une chaleureuse bienvenue ici au studio du Monde de demain avec notre sponsor l'Église du Dieu vivant. Notre objectif est de vous aider à comprendre votre monde à travers les pages de la Bible. Et la question d'aujourd'hui a le potentiel de changer votre vie à jamais, et pour le mieux, si vous êtes prêt à embrasser la vérité de la Bible plutôt que les mensonges courants, commodes et populaires. Notre question d'aujourd'hui est de savoir si Jésus nous reconnaîtrait individuellement comme chrétiens. Et avant de nous lancer dans la réponse à cette question, je dois vous avertir. Certains des points que nous allons aborder aujourd'hui pourraient mettre quelques-uns d'entre vous mal à l'aise, voire vous irriter. Ces points m'ont mis mal à l'aise et rendu furieux la première fois que je les ai entendus. C'est souvent le cas avec certaines vérités qui nous font avancer dans la vie et dans notre relation avec Dieu. Mais j'espère que vous resterez avec moi pendant toute la durée de l'émission et que vous m'écouterez attentivement jusqu'au bout. Cela vous demandera peut-être du courage, mais découvrir la réponse que donne la Bible à cette question pourrait bien être la chose la plus importante que vous ayez jamais faite dans votre vie. Au cœur de notre discussion d'aujourd'hui se trouve le mot « chrétien ». C'est un mot intéressant, un mot simple dont le sens semble évident, et pourtant un mot qui est aujourd'hui source de tant de confusion. La Bible elle-même rapporte la première fois où il a été utilisé dans l'histoire. Nous le voyons dans le livre des Actes, au chapitre 11. C'était suffisamment tôt dans l'histoire de l'Église parce que l'apôtre Paul n'était même pas encore apôtre, et il s'appelait toujours Saul. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul, et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Nous voyons ici à Antioche qu'il y avait des disciples de Jésus-Christ et ils étaient suffisamment nombreux pour qu'on commence à les appeler chrétiens, les identifiant ainsi comme les disciples de celui qu'on nommait Christ. Certains ont émis l'hypothèse que le nom chrétien aurait même pu être à son origine une insulte, mais qu'il ait été utilisé comme une insulte ou non, les premiers disciples de Jésus semblent l'avoir accepté. Au chapitre 4 de la première épître de Pierre, l'apôtre utilise ce mot pour encourager ses frères et sœurs dans la foi qui étaient persécutés. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, mais que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Dans les épîtres du Nouveau Testament, nous voyons les disciples s'appeler entre eux frères et sœurs. Mais le mot chrétien aidait à les identifier comme ceux qui croyaient, suivaient et obéissaient aux enseignements de Jésus-Christ et les distinguaient du reste du monde. Cependant, cela remonte à fort longtemps et les choses ont beaucoup changé depuis lors. Parmi les 2 milliards de personnes sur Terre qui se disent chrétiennes, il existe un nombre infini de doctrines différentes, de pratiques différentes, de traditions différentes, de croyances différentes sur la création, de compréhensions différentes des prophéties, de croyances différentes sur l'au-delà, de croyances différentes sur ce qu'est Dieu et sur le but de l'homme, et même de compréhensions différentes quant à l'identité et la nature réelle de Jésus-Christ. La liste est interminable. Franchement, en tant que directeur de la revue du Monde demain, j'ai pu constater à quel point le mot chrétien est un véritable défi. Il a pris tellement de sens différents qu'il est devenu une source de confusion. Lorsque nous utilisons le mot chrétien, bon nombre de nos centaines de milliers d'abonnés pensent à des choses différentes, tout comme nos centaines de milliers de téléspectateurs. Revenons maintenant à l'essentiel et formulons la question d'aujourd'hui de la manière suivante. Si un vrai chrétien est un disciple et un adepte de Jésus-Christ, qu'est-ce que cela signifie? Comment pouvons-nous savoir si Jésus nous reconnaîtrait comme l'un de ses disciples? Et s'il ne le ferait pas, en quoi devons-nous changer? nous allons aborder 5 points clés qui identifient les véritables disciples de Jésus-Christ et que la plupart des gens ne comprennent pas. Le premier point peut sembler le plus évident, mais ne vous méprenez pas. Numéro 1, un disciple de Jésus croit en Jésus-Christ et le suit. Cela pourrait vous amener à penser « Excellent, c'est tout à fait moi, je crois en Jésus ». Mais la Bible réfuterait cette conclusion et vous demanderait « En quel Jésus croyez-vous ?» Car beaucoup croient en un Jésus-Christ, mais ce n'est pas le vrai Jésus-Christ. Ne me croyez pas sur parole, croyez plutôt l'apôtre Paul. Dans sa deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 11, Paul aborde cette possibilité très réelle. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Oui, il y a un autre Jésus. Jésus lui-même avertit ses disciples que plusieurs viendraient sous son nom, le proclamant comme Christ, mais ce seraient de faux enseignants qui séduiraient beaucoup de gens. Et c'est ce qu'ils ont fait. Dès le premier siècle, les apôtres du Christ exhortaient à combattre pour la foi authentique qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Alors que le christianisme est la religion la plus répandue sur notre planète, Jésus dit que ses véritables disciples formeraient un petit troupeau sur la terre. En effet, lorsqu'on lui a demandé si beaucoup ou peu le suivraient vraiment, Jésus répondit par un avertissement que nous devrions tous prendre au sérieux. Luttez pour entrer par la porte étroite, car beaucoup, je vous le dis, chercheront à entrer et ne pourront pas. Dès que le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous vous serez mis à vous tenir dehors et à heurter à la porte en disant « Seigneur, ouvre-nous !» et que répondant, il vous dira « Je ne vous connais pas, ni ne sais d'où vous êtes. » Alors vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné dans nos rues. » Et il dira « Je vous dis, je ne vous connais pas, ni ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. » Jésus nous met en garde contre le fait de tenir pour acquis qu'il nous connaît. Beaucoup pensent connaître Jésus-Christ, mais le Jésus qu'ils suivent est, selon les mots de Paul, un autre Jésus. Alors comment savoir si nous suivons le vrai Jésus? Les points suivants nous éclaireront. Par exemple, point numéro 2, un disciple de Jésus se repent de ses péchés. Tel que je suis est l'un des hymnes chrétiens en anglais les plus populaires de l'histoire. Et pourtant, c'est aussi un mensonge. L'une des toutes premières étapes à franchir pour devenir un disciple de Jésus-Christ est de se repentir de ses péchés, c'est-à-dire de se détourner de la désobéissance à Dieu et de commencer à lui obéir. Le chapitre 1 de l'Évangile selon Marc relate le début du ministère terrestre de Jésus. Voyons cela par nous-mêmes dans Marc chapitre 1, versets 14 et 15. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Il disait « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » La repentance et le renoncement au péché sont fondamentaux pour être un véritable disciple de Jésus-Christ, à tel point que la nécessité de se repentir a été soulignée dans le tout premier sermon de l'Église fondé par Jésus. Nous pouvons le lire dans Actes chapitre 2. Nous y voyons qu'après avoir été convaincus par le sermon de Pierre de leur culpabilité de la mort du Messie, les gens sont exhortés à agir. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés » et vous recevrez le don du Saint-Esprit. J'ai pourtant entendu certains prédicateurs se disant chrétiens affirmer que la repentance ne concernait que les Juifs et n'était jamais exigée des non-Juifs. Eh bien, disons simplement que ces prédicateurs ont dû acheter une Bible défectueuse, car de telles affirmations sont de pure ineptie. Par comparaison, regardez la déclaration de Paul au roi Agrippa dans Actes 26, versets 19 et 20. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Paul, à Athènes, déclara aux Grecs réunis que Dieu ordonne maintenant aux hommes que tous, en tout lieu, ils se repentent. Loin de dire que nous venons à Christ tel que nous sommes, comme le dit cet ancien cantique, être disciple exige de se repentir de nos péchés, une nécessité pour quiconque veut être un véritable disciple de Christ. Mais qu'est-ce que le péché au juste ? La plupart des gens ne connaissent pas la définition la plus élémentaire du péché, même si elle figure dans la Bible sous leurs yeux. Examinons-la dans 1 Jean 3 et au verset 4. Nous lisons ceci dans la version Nouvelle Édition de Genève. « Quiconque pratique le péché transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. » La version Darby traduit ce verset comme suit. « Quiconque pratique le péché pratique aussi l'iniquité, et le péché est l'iniquité. » Cela nous amène au point suivant concernant le fait d'être un véritable disciple de Jésus-Christ. Un vrai disciple respecte les commandements de Dieu. De nombreux enseignants se disant chrétiens vous diront exactement le contraire, affirmant que le respect de la loi et des commandements de Dieu ne sont pas exigés des chrétiens. Mais si vous voulez être un véritable disciple de Jésus-Christ, ignorez ces enseignants et écoutez Jésus. Dans Matthieu 19, nous lisons l'histoire d'un jeune homme riche qui vint trouver Jésus et lui demanda ce qu'il devait faire pour avoir la vie éternelle. La réponse de Jésus fut simple. « Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Le jeune homme lui demanda ensuite lesquels, et Jésus énuméra plusieurs des 10 commandements. Beaucoup aiment présenter l'obéissance aux commandements comme quelque chose d'étranger au christianisme. Ils affirment qu'il suffit de croire, et ils choisissent des versets ici et là pour défendre leurs arguments. Mais tous ces arguments échouent toujours lorsque l'on étudie la parole de Dieu dans son ensemble. Par exemple, quelle importance Jésus accordait-il à l'obéissance ? Lisons nous-mêmes Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23. « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? Alors je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Maintenant, remarquez ceci. Ceux qui professent le nom du Christ et accomplissent même des miracles en son nom, mais qui pratiquent l'iniquité et transgressent la loi de Dieu, sont informés par Jésus-Christ lui-même qu'il ne les connaît pas. Si Jésus lui-même ne nous reconnaît pas comme l'un de ses disciples, comment le mot chrétien peut-il s'appliquer à nous ? Jean, l'un des 12 apôtres et qui a vécu le plus longtemps, l'avait compris. Regardons dans 1 Jean qu'il rédigea vers la fin du 1er siècle. Jean est souvent appelé l'apôtre de l'amour en raison de l'importance qu'il accordait à la nécessité pour les chrétiens d'aimer son prochain. Mais il pourrait tout aussi bien être appelé l'apôtre de la loi car il insistait également sur l'obéissance aux commandements de Dieu. Encore une fois, ne vous contentez pas de me croire sur parole. Regardons ensemble 1 Jean chapitre 2 versets 3 et 4. Si nous gardons ses commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mes amis, vérifiez cela dans la Bible autant de fois que nécessaire pour le comprendre et l'accepter. Si nous croyons que nous connaissons Jésus et que nous sommes ses disciples, mais que nous ne cherchons pas à respecter les commandements, alors l'apôtre Jean, l'apôtre de l'amour, dit que nous sommes des menteurs. Et ceux qui disent que nous n'avons pas besoin de respecter les commandements pour être chrétiens sont également des menteurs. Ils mentent peut-être par ignorance, mais mentent tout de même. Ce mensonge trouve ses racines dans les doctrines et les traditions des hommes, qui ont perverti la vérité de Dieu pendant près de 2 millénaires. Et cette compréhension nous amène à notre prochain point concernant les vrais disciples. Un disciple de Jésus croit en la Bible plutôt qu'aux traditions des hommes. De nombreuses organisations qui se disent chrétiennes clament haut et fort leur attachement à la parole de Dieu, mais dans la pratique, elles placent sans cesse leur propre tradition humaine et les décisions de leur concile au-dessus des Écritures. Elles n'observent pas les fêtes bibliques, comme le faisaient Jésus et ses apôtres et l'Église du 1er siècle. Elles célèbrent des fêtes pleines de symboles et de pratiques païennes que Dieu interdit à plusieurs reprises dans sa parole. Elles ne respectent pas le sabbat du septième jour, le seul jour de la semaine réservé dans les Écritures au repos et au culte, choisissant souvent le lendemain, le dimanche, un jour tiré des pratiques cultuelles païennes et imposé par un décret romain longtemps après la mort des premiers apôtres. Oui, il existe un gouvernement organisé et ordonné dans la vraie Église fondée par Jésus qui persiste aujourd'hui. De nombreux passages le montrent clairement. Le christianisme ne devrait pas être une religion de loups solitaires, dans laquelle chacun interprète la Bible selon ses propres idées. Mais qu'est-ce que Jésus pense des êtres humains qui font prévaloir leur tradition sur la Bible? Voyons sa réponse dans Marc et au chapitre 7. Dans ce passage, s'adressant aux pharisiens qui utilisaient leur autorité légitime pour supplanter la parole de Dieu par leur tradition, Jésus eut des mots sévères. Jésus leur répondit « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Au verset 9, il poursuit sa réprimande et leur dit encore « Vous rejetez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. » Non, Jésus ne s'intéresse pas aux arguments sophistiqués et aux traditions théologiques que diverses confessions utilisent pour justifier leurs idoles dans leurs édifices religieux, enfreignant le premier et le troisième commandement, ni leurs réunions dominicales au lieu du sabbat hebdomadaire biblique, ni leurs fêtes païennes au lieu des jours saints annuels prescrits dans la Bible. Pour les disciples de Jésus-Christ, la parole de Dieu est précisément cela, la parole de Dieu. Et elle prime sur toutes les traditions qui la contredisent et la rendent sans effet. Le dernier point que nous aborderons aujourd'hui est le suivant, et il est très important. Un disciple de Jésus consacre toute sa vie au Christ. Cela peut sembler évident, mais cela est loin d'être clair pour la plupart de ceux qui se disent chrétiens. Cette exigence imposée aux disciples de Jésus est probablement mieux expliquée par Jésus lui-même, comme la plupart de nos points l'ont été. Nous pouvons lire son explication dans Luc chapitre 14. Nous n'avons pas beaucoup de temps, mais examinons ensemble certaines parties de ce passage. Nous pouvons commencer au verset 26. « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » À ce sujet, ne vous méprenez pas. Jésus ne dit pas que vous devez négliger votre famille. Si c'était le cas, il se contredirait lui-même, car il dit aussi de s'aimer les uns les autres et de respecter le commandement d'honorer son père et sa mère. Il parle plutôt de l'aimer lui, plus qu'eux. Il doit passer en premier dans la vie de ses disciples avant leurs propres parents, frères et sœurs, conjoints ou enfants, oui, même avant leur propre vie. Notez bien ces paroles, il ne dit pas simplement que cette priorité est une bonne idée, il dit littéralement que celui qui ne le met pas au-dessus de tout ne peut être son disciple. Cela signifie que si, pour suivre Jésus, nous repentir de nos péchés, commencer à obéir aux commandements de Dieu et à vivre selon la Bible implique d'aller à l'encontre des souhaits de nos amis, de nos collègues et de notre famille, alors c'est ce que nous devons faire. Même si cela nous coûte la vie, Jésus attend de nous précisément cela, que nous renoncions à notre vie. Comme il le dit vers la fin de ce passage, « Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. » Ce sont des mots puissants à ne pas prendre à la légère. Tout ce que nous avons signifie littéralement tout ce que nous avons. Nos relations professionnelles et commerciales, nos préférences personnelles et politiques, nos loisirs et passe-temps, tout ce que nous avons doit être déposé au pied du Christ et considéré comme des outils au service de son dessein. Ce sont des sacrifices que nous sommes prêts à faire pour son royaume et sa justice. La bonne nouvelle, à bien des égards, c'est que la récompense est souvent immédiate pour avoir agi ainsi. Par exemple, il est remarquable de constater à quel point un mariage peut devenir meilleur et plus heureux lorsque le mari et la femme placent Jésus-Christ véritablement au premier plan dans leur vie, avant même leur conjoint. Cependant, je mentirais si je disais que l'engagement envers le Christ n'implique jamais le renoncement à certaines choses. Pourtant, être prêt à aller au-delà des étiquettes réconfortantes, mais finalement déroutantes, telles que l'étiquette de chrétien, et s'engager à devenir un véritable disciple de Jésus-Christ, offre des récompenses bien plus profondes que tout ce à quoi nous aurions à renoncer dans cette vie. Une relation réelle et vivante avec notre Créateur et notre Sauveur, le pardon des péchés et le don du Saint-Esprit habitant en nous, la force que nous donne la compréhension du but de la vie qui est de devenir à terme membre de la famille de Dieu et l'espérance d'une gloire, d'un amour et d'une joie sans fin avec notre Père, avec le Fils de Dieu et avec nos fidèles frères et sœurs en Christ alors que nous entrons dans l'éternité au retour de Jésus-Christ. Ne prenez pas votre cheminement spirituel pour acquis. Nous vous avons aidé à entamer de vous-même le processus de cette découverte, mais vous vous devez de saisir l'offre gratuite d'aujourd'hui « Qu'est-ce qu'un vrai chrétien ?» pour approfondir votre réflexion. J'espère que vous le ferez.